m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien
sûr. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis ce soir en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, Marc.
Et je suis avec Étienne Darjac. Étienne Darjac qui revient du salon de l'agriculture et qui a expérimenté les joies du métro parisien et de ses anecdotes fumeuses. Vous nous raconterez peut-être si vous arrivez à redescendre un petit peu. Josin Sétienne Darjac qui est arrivé fou furieux dans ce plateau. Il va vous raconter en quelques instants pourquoi. En tout cas, émission assez riche, chers auditeurs, puisque nous allons parler évidemment de l'actualité politique de ce pays, entre la classe politique qui défile au salon de l'agriculture, François Hollande en train d'essayer de préparer un éventuel retour, Jack Lang dans la tourmente, puisque Valeurs Actuelles lui a même consacré sa une, et on reviendra dessus avec Valentin Gore. Le projet énergie, la planification,
PPE, comme on dit.
Le PPE, merci Valentin, énergie, contre lequel le Rassemblement National et la France Insoumise ont déposé une motion de censure, nous y reviendrons. La loi fin de vie, évidemment, qui a été votée par l'Assemblée Nationale hier. Enfin, à 17h55, nous recevrons Nicolas Boutin avec le chef de VA Région. Nous reviendrons sur les élections municipales, spécialement la mairie de Lyon, puisque un débat a eu lieu entre les différentes têtes de liste, un débat où certains se sont illustrés et d'autres se sont effondrés. À 18h15, nous recevrons Jean-Michel Verne avec notre confrère de Valeurs Actuelles et spécialiste du grand banditisme. Nous reviendrons notamment sur la situation au Mexique où un groupe de narcotrafiquants, de narcoterroristes on pourrait même dire, est en train de mettre le pays à feu et à sang après la mort de son chef de cartel. Nous parlerons du Mexique, nous ferons évidemment un petit tour sur l'actualité de la guerre contre le narcotrafic en France. Jean-Michel Verne, un expert reconnu qui a déjà publié une enquête sur la DZN Mafia, un point de vue intéressant et surtout unique. Et à 19h, nous recevrons le sénateur des Républicains Étienne Blanc, seul élu de la République à s'être rendu à la marche pour Quentin à Lyon. Et avec lui, nous reviendrons évidemment sur la violence politique de l'extrême gauche et sur ce que le législateur peut faire pour lutter contre ce fléau. Comme vous pouvez le voir, un programme très politique, un programme chargé, mais petite note de légèreté, quoique ce n'est absolument pas drôle. Étienne Darjac, mais que vous est-il arrivé dans le métro, mon pauvre ami?
Alors, j'essaie effectivement de rester calme. Donc en fait, pour tout vous dire, j'étais censé passer l'après-midi au salon de l'agriculture.
Bah tiens.
Marc ici présent s'inquiétait de me voir arriver dans un état second, ce qui arrive fréquemment quand on passe quelques heures.
Cela m'aurait obligé à davantage de modération, voilà. Chers auditeurs. J'en profite avant que vous continuiez, pardon, j'ai oublié de le dire. Évidemment, chers auditeurs, cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez évidemment réagir à cette émission à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr. Pardon. Et évidemment par téléphone, je vous communique le numéro dans quelques instants, le temps qu'Étienne Darjac termine son anecdote. À vous Étienne.
Voilà, donc je vais passer l'après-midi au salon où j'ai mes habitudes depuis que je suis parisien, j'y vais tous les ans. Je m'en faisais une joie et il se trouve que pour me rendre au salon, j'ai pris le métro. Puisque par ailleurs je n'ai plus scooter
depuis quelques semaines. Ce qui n'a rien d'exceptionnel.
Pour moi si. Et dans le métro, j'ai eu la joie de me faire voler mon téléphone par ce qu'il faut qualifier de chance pour la France, comme on dit sur les réseaux sociaux.
Voilà qui va alourdir les statistiques de Gérald Darmanin, qui dira qu'il n'y a aucun lien.
J'étais malheureusement plongé dans un livre et avec mes écouteurs, donc assez peu attentif, je l'avoue, à mon environnement. Et donc je n'ai rien pu faire. Donc voilà, donc j'y suis quand même allé déjeuner au salon où je devais retrouver mes parents.
Est-ce que ça vous a rasséréné
ce passage au salon? J'étais considérablement agacé de ne pas pouvoir en profiter alors que c'est un endroit que j'aime particulièrement. Et donc je suis parti très rapidement pour aller m'acheter un nouveau téléphone que j'essaye de paramétrer tant bien que mal depuis environ 3 heures. Donc voilà, donc je suis parfaitement détendu, sobre.
Bravo.
Contre toute attente.
Donc, j'aurais moins de modération à faire, voilà. Excepté si on parle effectivement du phénomène du vol voilà, d'objets dans les transports en commun. Il faudra peut-être vous modérer un petit peu, Étienne. En tout cas, si vous avez envie d'envoyer vos mots d'encouragement et de commisération à Étienne Darjac, c'est à l'adresse courtoisie@rc.fr et par téléphone au 01 46 51 00 85. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et vos questions que nous tâcherons de lire au cours de cette émission. Le salon de l'agriculture, c'est certes le lieu où Étienne Darjac est allé déjeuner. C'est aussi le lieu où la classe politique défile, en tout cas les ovins, bovins et autres animaux de basse-cour n'ont jamais vu autant d'hommes politiques depuis l'année dernière en quelque sorte. Sébastien Lecornu s'est prêté au jeu deux fois d'ailleurs, Jordan Bardella et Marine Le Pen, Éric Zemmour, Sarah Knafo, les écologistes devront suivre dans pas longtemps. Pour la France Insoumise, je n'ai pas leur programme précis, bizarrement ils ne me l'envoient pas.
Je ne sais pas pourquoi.
Mais en tout cas voilà, c'est le traditionnel, c'est annuel, c'est presque un marronnier dans la presse, la classe politique s'essaye au tatage de cul des vaches quelques années après Jacques Chirac. Est-ce que Valentin Gore, cérémonie on a envie de dire traditionnelle, c'est les premiers salons depuis la signature du Mercosur et ça se passe plutôt bien, il faut le reconnaître. Pour l'instant, la classe politique n'a pas été spécialement mal accueillie ou chahutée.
Non, c'est vrai, ça se passe plutôt bien. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le salon de l'agriculture dans son esprit, mais je dois dire qu'après, année après année, je suis un peu navré quand même de cette manifestation qui me paraît parfois, évidemment pas pour les exposants, mais pour la classe politique, d'une grande hypocrisie. Et je vais même dire, même, j'ai ressenti, la dernière fois que j'y suis allé, ça devait être l'an passé, j'y suis pas allé cette année encore, ou peut-être il y a deux ans, peu importe. Mais en tout cas, j'ai senti une forme de tristesse malgré tout. J'ai senti que l'esprit n'y est plus. Quand vous parliez de Chirac, bon, Chirac avec sa dose de démagogie bien connue, évidemment. Mais c'est certain qu'il y avait quand même, il y a encore 10-15 ans, une ambiance de fête. On sentait que c'était vraiment une grande fierté de la France agricole, qui était encore assez, malgré toutes les difficultés, assez vivace. On sentait vraiment que c'était un grand secteur de la vie française, de la vie économique française. Et je trouve qu'on sent maintenant qu'on essaie de rejouer, parfois même en mythifiant un monde qui n'existe plus, qui a été détruit en grande partie par l'incurie de notre classe politique. Puis on a des hommes politiques qui s'y promènent cet après-midi, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils y vont tous. Pour certains, on sent effectivement que ça passe bien. Vous parliez de Sébastien Lecornu, qui connaît la campagne. Pour d'autres, on sent que c'est quand même beaucoup plus artificiel.
C'est Étienne Darjac, il y a un côté village Potemkin un petit peu dans ce salon de l'agriculture.
Oui, il faut bien avouer que chaque année, les images sont les mêmes. Il y a tout un défilé de costumes bleus. Qui vient caresser les agneaux, boire un verre ou deux et promettre monts et merveilles au monde agricole français.
C'est vrai, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai, c'est une tradition de tous les hommes politiques se photographier avec un agneau. C'est la grande mode.
Oui, c'est
ce sont les loups et les agneaux.
Peut-être que oui, voilà.
Peut-être c'est un petit peu de ça.
Peut-être que vieux journalistes ou militants que nous sommes. Nous sommes rompus à ces mauvaises techniques de communication et que ça ne nous fait plus ni chaud ni froid. Peut-être que ça marche encore sur l'essentiel de la population qui est bien plus heureuse que nous parce qu'elle ne s'intéresse pas de si près à la politique. Mais c'est vrai que je trouve ça assez grotesque et tout camp confondu. Hein, par ailleurs, à l'exception peut-être de quelques personnalités politiques qu'on sait particulièrement racinées, particulièrement à cheval sur ces questions-là. De la gauche à la droite, c'est assez grotesque. Je ne sais pas si ça fait encore recette. Vous voyez, pendant mon bref passage ce midi, où j'étais déjà passablement agacé, j'ai eu en plus le déplaisir de voir le stand du Berry, qui m'est très cher,
bien sûr,
envahi par la délégation de notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est lui-même d'origine...
Vous partagez des racines berrichonnes avec le locataire de la place Beauvau, Étienne Darjac. Moi aussi, d'ailleurs.
Le Berry est une région très puissante.
Voilà.
Et donc j'étais venu prendre un coup de Quincy, parce que j'ai un cousin, figurez-vous, qui est producteur de Quincy.
Bravo, excellent petit vin blanc.
Excellent, très bon vin blanc que je vous recommande. Et j'ai mangé un peu de crottin de chavignol.
Je me suis
retrouvé encerclé par
le Berry. Ne nous paye pas d'ailleurs pour cette promotion. On tient à dire que c'est purement bénévole en plus. Mais je veux bien une caisse de 15 si après cette promotion gratuite. Vous ferez passer le message.
Et donc je me suis retrouvé envahi par l'intégralité des services de protection de Laurent Nunez, qui a passé une heure et demie sur le stand quasiment. À parler avec la terre entière. Alors il était très content, on sait, il s'est dit en tout cas beaucoup qu'il avait des ambitions dans le Cher Alors en tout cas, ça se disait avant qu'il soit nommé ministre de l'Intérieur. Alors,
parce que vous me tendez une perche immense, ouais, c'était une révélation exclusive de Valeurs Actuelles. En effet, Laurent Nunez, alors c'était avant, effectivement, vous avez raison, le départ de François Bayrou. Il se murmurait que Laurent Nunez se réfléchissait à un petit... pas un parachutage, parce qu'il en est quand même originaire, mais en tout cas qu'il visait particulièrement le Cher et une de ses circonscriptions pour envisager la suite de sa carrière politique.
Il y avait eu effectivement, je crois...
la troisième du Cher, très exactement.
Vous me contredirez. Je crois qu'il était question soit des législatives, soit même des municipales.
Alors, les municipales, c'était un bruit. En tout cas, nous, on a eu vraiment une information très claire sur les législatives. Après, les municipales, on a entendu les bruits, mais on n'avait rien pour matérialiser cette information. Voilà.
Bien. En tout cas, tout ça pour dire que M. Nunez m'a empêché de profiter de mon crottin de Chavignol.
Et ça,
c'est un grief de plus que j'inscris à son compte.
Bon, on va passer à un autre animal politique, celui-ci un peu plus déplaisant. En tout cas, on n'a pas envie de l'exposer au salon. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, ancien ministre de la Culture François Mitterrand, de l'Éducation nationale, de Lionel Jospin dans la cohabitation, c'est vous qui me l'avez rappelé avant l'émission, Valentin Gore, j'avais complètement oublié effectivement qu'il a été ministre de Jospin. Jack Lang, à qui Valeurs Actuelles a consacré sa une, deux enquêtes, signées par Yann Hamel et Laurent Dandrieux. Qu'est-ce qu'on apprend dedans, Valentin, vous qui l'avez lu en détail?
Bien sûr, alors c'est une enquête tout à fait intéressante, parce qu'elle va au-delà de ce qu'on sait déjà sur le personnage Jack Lang. Laurent Dandrieux, responsable du service culture à Valeurs Actuelles, revient dans le détail sur ce qu'a été le passage ô combien célébré par les médias de service public et régulièrement de Jack Lang au ministère de la Culture. C'est vrai, avec quelques succès, il faut quand même les noter, tout n'a pas été catastrophique, mais quand même avec beaucoup d'écueils aussi.
La
fête de la musique, elle même le prix unique du livre, on peut quand même considérer que c'était une bonne idée. Il y a eu parfois de bonnes initiatives, mais c'est vrai aussi avec tout ce vocable dont aujourd'hui, la culture souffre énormément. Hein. Cette espèce de culture du guichet, de la subvention, d'un espèce de nivellement où on mélange allègrement toutes les cultures sans faire de distinction ni de différence. Donc, Laurent Dandrieux revient particulièrement là-dessus, de façon tout à fait fouillée. Puis nous avons Yann Hamel, effectivement, qui est un journaliste d'investigation, qui est revenu au-delà de ce qu'on a appris sur notamment les restaurants impayés, pour savoir, par exemple, on comprend que Jack Lang avait parfois pour habitude de ne pas payer, c'est une chose.
Et puis, éventuellement, parfois, vous faites preuve d'une modération et d'une déontologie incroyable, parce que c'est très souvent quand même.
Oui, très souvent, très souvent. Vous avez raison, j'ai une tendance à l'euphémisme qui peut me perdre et à la modération. Mais c'est vrai que Jack Lang, parfois, c'est ce que dit en tout cas Yann Hamel, en tant que ministre... parfois, on disait qu'il envoyait le fisc ou que le fisc pouvait s'intéresser éventuellement aux restaurateurs qui avaient le malheur peut-être d'exiger d'être payés par Jack Lang. Donc, ce sont des méthodes bien connues, notamment pas très loin du Berry, à Bourges, non, à Blois, pardon, justement à Blois, ville dont il a été le maire et dont il a considérablement creusé le déficit d'une série de restaurants bien connus dans cette très belle ville de Blois.
C'est alors je vous sais pas forcément un farouche républicain, en tout cas pas un farouche fan de la convention et des ardeurs révolutionnaires, je vais corriger.
Oui.
Je vous sais pas un fervent défenseur des ardeurs révolutionnaires Étienne Darjac. C'est vrai que moi quand j'entends ces histoires sur Jack Lang, quand j'entends cette espèce de réflexe d'ancien régime, pardon, mais sans la noblesse qui va avec, en quelque sorte, on aurait presque des envies de comité de salut public, en fait. Enfin, il y a quelque chose d'hallucinant dans cette, vraiment dans cette, je suis le prince, je ne paierai rien, et au fond, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais payé quelque chose personnellement, qui considérait vraiment que tout lui était dû. On l'a vu dans ces histoires de frais de restaurant, on a vu même avec les échanges de courriels qu'il avait avec Jeffrey Epstein, au-delà même évidemment du caractère criminogène de Jeffrey Epstein, il y avait vraiment cette faculté à aller demander de l'argent pour payer des cours de poney à la fille, pour payer un aller-retour je ne sais où. Enfin, il y avait
un
vraiment
un film à sa gloire aussi.
Oui, il y
avait
un film à sa gloire. Enfin, il y a vraiment une habitude absolument incroyable, mais qui traduit bien un petit peu cette génération politique.
Oui, alors je ne relève pas la comparaison avec l'ancien régime qui heurte l'aristocrate que je demeure.
Ouais.
Je trouve que comparer Jack Lang à cette période
les excès,
est assez excessif.
Les excès. Étienne, les excès.
Cela dit, oui, comité de salut public, bien sûr, j'y suis très favorable, cher Marc. Il y a en tout cas, chez, à défaut d'Ancien Régime, dont il était très éloigné, il y a chez Jacques Lang sans doute une vocation parasitaire très développée. Mmh. On sent que c'est Jacques Lang est sans doute l'archétype du parvenu. Mmh. C'est presque une figure littéraire de ce point de vue-là.
C'est très balzacien.
Oui, c'est balzacien,
en fait,
tout à fait. Alors on a effectivement évoqué la fête de la musique et le prix du livre. Bon, en fait, c'est le patrimoine de Jacques Lang. Il a fait ça il y a 40 ans, bientôt 50.
La rente.
Et, c'est, voilà, et depuis, ça lui fait une rente qui justifie les postes les plus prestigieux, qui justifie en fait absolument tout. Absolument tous les passe-droits que cet homme se permettait, dont effectivement ses ardoises au restaurant, entre autres choses. Donc voilà, il y a, mais c'est commun, j'allais dire, à toute la classe à laquelle appartenait Jacques Lang, à cette espèce de... d'élite dégénérée qui a vu le jour après-guerre en France et qui a oublié que pour être élite il faut servir son pays, servir sa communauté, qui n'a gardé le souvenir que de se servir elle-même. Jacques Lang est probablement l'incarnation la plus parfaite, j'allais dire, ou la plus insupportable de ce type d'homme-là qui malheureusement a le pouvoir en France depuis très longtemps.
Il y a, alors, image d'archives un petit peu, je regardais par curiosité, petite curiosité, les archives dont n'est pas couché. Alors, cette émission sur le service public animée par Laurent Ruquier.
L'époque dans laquelle,
évidemment, Éric Zemmour, Éric Nolot étaient chroniqueurs. Il y avait notamment un débat extrêmement intéressant. Alors, je recommande le débat entre Zemmour, Nolot et Nicolas Bedos. Mais le Nicolas Bedos de 2008-2009, c'est-à-dire le Nicolas Bedos qui connaissait des petits succès au théâtre, mais qui vivait encore écrasé un petit peu par l'autorité tutélaire de son père, qui était un des vraiment de cette époque. Lang, qui était vraiment le comique officiel,
oui,
presque du parti socialiste au pouvoir, quoi. Et Zemmour, alors autant Nolo et Bedos se sont chamaillés sur des questions d'ego personnel, un peu narcissique, etc. Et Zemmour a livré une analyse en fait à Nicolas Bedos. Nicolas Bedos à la fin d'ailleurs le dit, mais en fait je suis totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et que Zemmour disait en fait ce qui est paradoxal, c'est qu'il dit la génération de vos pères avait vraiment la haine, c'est-à-dire qu'elle s'acharnait à tout détruire, elle s'était justement attaquée à la génération avant, c'est-à-dire la génération des médaillés de la résistance, en fait, des gaullistes. Elle disait, bah, vous voyez, ils se sont attaqués avec une telle haine vis-à-vis de la génération précédente, celle qui avait quand même sauvé la France, celle de la France libre, etc. Et il dit, votre génération à vous, elle est peut-être animée de la même colère vis-à-vis de la précédente, mais c'est une colère émoussée, c'est-à-dire que vous n'osez pas tuer. En quelque sorte, c'est que vous êtes retenu au dernier moment. Et finalement, et c'est, alors c'est la partie qui est intéressante, c'est vraiment celle où il parlait justement de la génération de Guy Bedos. Et il y avait vraiment c'est le problème de cette génération, c'est vraiment la génération qui a fait table rase du passé, qui a traité le général de Gaulle de SS et les médaillés de la résistance
fasciste,
de fachos,
d'ailleurs,
quoi.
Oui,
en fait,
oui.
Vous voyez, c'est symptomatique de cette génération Lang, cette génération de la déconstruction en quelque sorte, Valentin Gore.
Bah bien sûr, c'est mai 68, dont vous avez très bien rappelé les écueils et qui marque de ce point de vue dans les élites. Et vous avez raison, Étienne, parce qu'aujourd'hui le mot élite, notamment après l'affaire Epstein, a été beaucoup employé de façon très négative. On pointe, mais c'est vrai que ces élites n'en sont pas justement et qu'il faut redonner au mot élite sa qualité originelle. Et ces gens qui, comme Jack Lang. Évidemment, ont tout à fait abîmé la France lorsqu'ils étaient au pouvoir, ne sont certainement pas des élites. Vous avez exprimé ce mot de parvenu. Mais c'est certain que mai 68 est à la base de la pensée de Jack Lang, puisqu'il a eu une certaine renommée lorsqu'il a créé ce festival mondial de théâtre dans sa ville de Nancy, dont il était originaire. Ses parents étaient des grands bourgeois de Nancy. Jack Lang ne vient pas de n'importe
où. Du fond du ruisseau.
Du fond du ruisseau. Et c'est vrai que là, déjà, on sentait cette espèce de... C'était même avant 68, mais l'esprit était déjà là. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, c'est un ministre de droite qui a poussé Jack Lang, enfin de droite, c'est-à-dire de droite, mais qui était... Vous avez raison, Étienne, je vous voyais osciller. Vous avez raison. D'un gouvernement de droite, mais qui déjà, et c'est un peu l'un des écueils, hélas, qu'il faut bien avouer au sujet des gouvernements gaullistes, ils ont un peu laissé quand même l'éducation et la culture, notamment la culture à la gauche, et quelle erreur, mon Dieu, quelle erreur.
Une désertion assez incompréhensible.
Absolument,
d'ailleurs. Il y a quand même quelque chose aussi qui frappe Étienne Darjac sur Jacques Lang, c'est que quand on parle de cette époque, parfois on l'emploie vraiment au passé comme si c'était il y a longtemps. en quelque sorte. Alors ce qui est fou, c'est que les amis politiques de Jack Lang, pour certains, sont encore aux affaires. Je pense à François Hollande, qui a été président de la République. On pense à certains cadres socialistes qui aujourd'hui sont proches du gouvernement. Finalement, c'était hier, en fait. Là, c'était hier, cette génération de vieux gauchistes qui avaient les pleins pouvoirs. Est-ce qu'on est en train d'en sortir, pour vous, qui êtes... Qui est de la jeune génération, Étienne, ne nous cachons pas.
Est-ce qu'on est en train d'en sortir ? J'espère, oui. Après, sans vouloir être désagréable avec ces braves gens, mathématiquement, on finira bien par en sortir.
C'est pas parce que la loi Fardy vient de passer que tout de suite voilà. Ça va accélérer le processus.
Mais cela dit, vous savez, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de reproduction des parasites, justement. Souvenez-vous, on présentait Macron en 2017 comme le nouveau monde, l'homme arrivé de nulle part, l'homme qui valait 3 milliards, je sais pas.
Macron, en fait,
n'est qu'un héritier des Strauss-Kahniens et a construit toute sa première équipe en 2017 avec les Strauss-Kahniens.
Oui.
Strauss-Kahn qui n'est
pas exactement... Oui, il se met les médias, Sibet Ndiaye, Sassi Guérini, Benjamin Griveaux.
Qui est lui-même un héritier de la Mitterrandi. Donc, si vous voulez, j'ai employé une expression
Il y a une filiation pour vous entre Macron et cette génération-là.
Pour moi, il y a une filiation directe entre Macron et Mitterrand, par Strauss-Kahn, bien sûr. C'est une de nos marottes. Cette génération-là est parvenue, d'une part, à détruire beaucoup de choses en France le temps qu'elle est restée au pouvoir, et à y rester depuis. Dans toutes les institutions du pays, Jack Lang en était encore une fois l'incarnation parfaite. Jack Lang, lui, il a quand même réussi l'exploit, comme vous le disiez, d'être recruté par Nicolas Sarkozy, je crois.
Bien sûr.
Encore un coup de génie du président Sarkozy.
Encore un acte de soumission de la droite à la gauche, quoi.
Ce qui résume assez bien le quinquennat Sarkozy, par ailleurs. Il faut relire à ce sujet, c'est une de mes vieilles obsessions, Patrick Buisson.
On salue là où il est.
Donc, on va finir par s'en sortir, j'espère. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je pense que l'élection présidentielle 2027 sera celle qui déterminera le nouveau monde politique. Mais j'ai eu aussi l'occasion de dire qu'une des options sur la table pour 2027, c'est le retour précisément au vieux monde, c'est la fin de l'aventure macroniste, c'est la fin de cette espèce de tiers-parti sorti de nulle part. Et le retour au bon vieux bipartisme de la 5ème République.
Et peut-être bien la fin de la droite nationale aussi, puisque ça fait partie des sujets qui occupent les observateurs et les éditorialistes et énormément de monde. On ne dit pas ça parce qu'il a perdu 15 kilos de manière extrêmement rapide, mais François Hollande semble avoir considéré que le moment était venu pour lui. François Hollande, donc on le voit en offensive médiatique, qui contribue avec Jérôme Guedj et d'autres rares personnalités de gauche à exiger, sans le nommer ainsi pour pas faire comme la droite, mais à exiger un cordon sanitaire total avec la France insoumise. François Hollande qui, quand on parle avec ses proches, qui disent il n'a pas la capacité de se créer un espace, mais en revanche, pour ceux qui maîtrisent le sport de balle au pied, c'est un renard des surfaces, c'est-à-dire il sait se placer là où la balle de match arrivera. François Hollande en alternative solide à gauche face à Jean-Luc Mélenchon est potentiellement le seul à gauche en capacité de battre le Rassemblement National au second tour, pour un peu divulgâcher toutes les hypothèses. Vous y croyez, Valentin Gore ?
Bah écoutez, je serais tenté de vous répondre oui. Parce que je dois dire que ça fait un moment, bon, je suis pas le seul, parce que c'est un bruit qu'on entend qui est assez courant, on est assez nombreux parier.
Depuis sa réélection.
Oui, voilà, bien sûr. C'est un peu une fausse originalité de dire que François Hollande peut revenir. En vérité, c'est un scénario qui est tout à fait crédible, qu'il était déjà en 2017. Moi, je pense qu'il a dû vraiment se mordre les doigts à un moment donné en voyant à la fois la campagne de François Fillon et celle de Benoît Hamon d'avoir peut-être renoncé trop vite. Parce que je pense vraiment que si c'était maintenu, il aurait tout à fait pu être réélu, paradoxalement. Et là, il y a tout à fait une ligne qui s'ouvre pour lui, parce que vraiment, en vérité, à gauche, il y a deux personnes. Il y a Mélenchon et lui. Les autres sont des ectoplasmes, ou n'existent pas. Et puis surtout, il peut faire ce qu'il avait très bien fait avec Sarkozy en 2012, c'est-à-dire du judo, renverser la force de l'adversaire, d'abord face à Mélenchon. Et s'il y a un jour un débat télévisé entre Hollande et Mélenchon, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je ne suis pas du tout sûr que doute que Mélenchon gagnerait.
Je pense que Hollande écrase Mélenchon.
Je pense parce que d'abord, je crois qu'il y a une chose un peu ancienne qu'on n'a pas oubliée, mais que beaucoup de gens oublient, c'est le congrès de Brest, qui est ce congrès des années 90 où Hollande avait humilié Jean-Luc Mélenchon en s'imposant de façon radicale face à lui. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon en a gardé une espèce de complexe d'infériorité par rapport à François Hollande, qui s'est révélé incontestable pendant tout son mandat, et le jour où il l'avait d'ailleurs traité de capitaine de pédalo, ça paraissait une attaque un peu ridicule. Mais non, je crois qu'il ne faut pas du tout enterrer François Hollande, qui a un vrai espace pour lui, surtout s'il fait des petits clins d'œil au centre, s'il dit quelques petites choses sur l'immigration, du genre il faut durcir un tout petit peu. Voilà, il ne faut évidemment pas rappeler Najat Vallaud-Belkacem et les anciens caciques de son gouvernement, il faut tenter autre chose. Mais je crois qu'il y a tout à fait un chemin pour lui, pour cet homme qui est vraiment diablement intelligent et fin tacticien.
Quand on parle effectivement de François Hollande et de son espace, on a tendance à dire de Ruffin à Attal, en quelque sorte. Ouais, Étienne Darjac, c'est crédible pour vous ou pas ?
Je crois que c'est crédible. En fait, François Hollande, d'abord, celui qui croit le plus à cette hypothèse, c'est lui. Hein. François Hollande, vous l'avez dit, Valentin, et c'est quelque chose qu'on a... c'est un peu vieux maintenant comme réflexion, mais on s'est beaucoup moqué, de parfois à raison, de Flamby. François Hollande est sans doute un des meilleurs politiciens en vie aujourd'hui, un des plus redoutables politiciens en vie aujourd'hui. C'est un véritable maître en la matière. Je crois que effectivement, à partir du moment où François Hollande se met à croire à quelque chose, le plus sage est d'y croire aussi. Donc, pour moi, il a évidemment un espace, précisément parce que vous avez parlé, Marc, de cet espace entre François Ruffin et Gabriel Attal. Il a un espace parce qu'il n'y a personne, en fait. Quand même dire que Olivier Faure a le charisme d'un écureuil blessé.
Ça peut être très agréable.
Gentil,
oui. François Ruffin est sympathique, mais pas très crédible.
Ça s'appelle Une dans Marianne, quand même, avec un drapeau français.
Il a fait Une dans Marianne, oui. Ça nous rappelle les plus grandes heures d'Arnaud Montebourg.
Mais qu'avez-vous pensé de cette Une, chers auditeurs? N'hésitez pas à nous le signaler par commentaire ou question.
François Ruffin aura probablement, je pense, le même destin que Arnaud Montebourg à ce jeu-là. Je pense qu'ils sont à peu près sur la même ligne, sur le même créneau, et qu'il y a une incompatibilité entre leurs prétentions gauche radicale et l'espèce de vernis patriote qu'ils essayent de poser. On se souvient qu'Arnaud Montebourg avait fini par être lâché, je crois, sur les questions migratoires par ses propres équipes, notamment les jeunes avec Montebourg. Ça avait été un fiasco épouvantable.
Oui, vous avez raison. Je ne me
rappelle plus quelle était l'histoire précisément.
Ouais.
Mais,
il y avait une histoire comme ça.
Donc je crois que François Ruffin sera toujours limité parce qu'il ne peut pas tenir sur ses deux jambes-là. C'est pas possible.
Non.
Mélenchon l'a parfaitement compris. Il a complètement abandonné la jambe patriote. Hollande l'a parfaitement compris. Il a complètement abandonné, si tant est qu'il l'ait jamais, la jambe gauche radicale.
Ouais.
Donc, Faure, pas crédible. Ruffin, je pense qu'il n'y parviendra pas. Le troisième que vous avez cité, c'est Jérôme Guedj, qui met, je dois le dire, à titre personnel, plutôt sympathique.
Il y a aussi les candidats avec son présidentiel. Hein,
ça nous semble être quelqu'un d'assez élégant, d'assez intelligent. Bon, maintenant, Jérôme Guedj...
Très intelligent. Ancien collaborateur privilégié de Jean-Luc Mélenchon.
Ancien, oui. Un des purgés.
Vous parlez de l'antagonisme entre Hollande et Mélenchon qui datait du congrès de Brest. Eh bien, il y a aussi l'antagonisme Guedj-Mélenchon, l'antagonisme de Guedj.
Ils se haïssent alors qu'ils ont été extrêmement proches pendant très très longtemps. Il faut dire que il y a maintenant beaucoup de littérature à ce sujet. Mélenchon peut être d'une dureté, d'une froideur avec ceux qui l'ont le plus aimé, qui est assez terrifiante en réalité.
On va reparler de la gauche un peu plus tard dans l'émission, chers auditeurs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et notamment sur cette période-là. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr et par téléphone au 00 85. Vous êtes bien en tout cas dans l'émission Restons Courtois sur Radio Courtoisie, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Nous allons maintenant nous tourner vers notre ami Nicolas Boutin pour sa rubrique Territoire Encarté. Avec Nicolas, nous allons revenir sur les élections municipales, et surtout il y a eu un débat. Alors Mélenchon sera à Lyon ce soir pour un meeting, et un meeting sera évidemment très scruté dans le contexte de...
Il revient sur les lieux du crime.
Et, oui, c'est à peu près ça l'idée, je vous laisse mettre de vos propos, cher Étienne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lyon a été le théâtre d'un affrontement politique, puisque les différentes têtes de liste et candidats se sont affrontés sur le plateau de BFM, et ça a été... assez surprenant puisqu'il y a eu des révélations et des crashs en quelque sorte, Nicolas.
Oui, bonjour Marc. Effectivement, c'était une soirée quand même assez inédite parce que, vous savez, c'était le premier et unique débat de l'élection municipale à Lyon puisque Jean-Michel Aulas, le candidat favori, ultra favori, puisqu'il est donné à 45 et 47% au premier tour, s'est montré beaucoup plus fébrile que prévu. Et quand je disais que c'était l'unique débat, parce qu'il avait refusé tous les autres débats et il avait accepté que celui organisé par BFM TV mardi. Et effectivement, ça a pu donner lieu à avoir des certaines faiblesses de ce candidat favori.
Oui, mais alors, pardon, Nicolas de Boutin vous interrompt, mais en fait, on a l'impression qu'il n'avait pas compris que ça allait être un débat politique et non, je vais être un peu caricatural, mais une assemblée du MEDEF, quoi. En fait, c'est comme s'il découvrait un peu le format. Ah, bon, après, c'est son premier débat politique, donc on ne peut pas lui en vouloir, mais c'est vrai qu'il avait l'air complètement à côté, en réalité, du contexte, quoi.
Pour vous donner un petit peu quelques éléments de coulisses, c'est vrai que dans son entourage, on était plutôt inquiet de ce débat. Ouais. Parce que Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, il a 76 ans, sans vouloir lui faire offense au ressenti, on pourrait très bien donner 85 ans pour passer.
C'est pas sympa. C'est pas sympa, Nicolas.
On le trouve très fatigué, très, comment dire, effectivement, du mal finalement à endosser le costume du politique. Alors c'est aussi l'une de peut-être de ses forces. En tout cas, c'est là-dessus qu'il essaye de jouer, c'est-à-dire de se la jouer société civile.
Ouais, qu'il n'est pas politique justement. Ouais.
Exactement, en dehors des partis. Maintenant, il est vrai aussi qu'il est quand même soutenu par finalement tous les partis de la Macronie, hein, de la majorité présidentielle, des Républicains, et que bah, du coup parfois ça le rattrape et on va en parler parce que c'était le cas pendant ce débat. Mais quand je parlais de Jean-Michel Aulas, il y a une vraie inquiétude dans son entourage parce qu'on le trouve très fatigué. Ouais. Et c'est vrai que durant ce débat, il s'est montré à plusieurs reprises à la peine, pas capable de terminer des phrases, pas capable de répondre, pas capable d'être précis dans ses projets. Et puis, il y a un autre problème, effectivement, c'est qu'il a dévoilé son programme vendredi dernier, la veille de l'hommage à Quentin Derenck. Et c'est passé donc assez inaperçu au vu de l'actualité.
Ah, je vous confirme, vous me l'apprenez là, que Jean-Michel Aulas a sorti son programme.
Il y a une vraie
programme.
Interrogation, c'est que toutes les grandes lignes annoncées depuis sa déclaration de candidature ne figurent pas dans le programme. Alors il nous dit que oui, ils seront bien mises en œuvre. On parle de méga tunnel, on parle d'un stade de foot à Lyon-la-Duchère pour laquelle la Fédération française de football lui a mis une sorte de frein puisqu'il est lui-même vice-président de la fédération et donc ils l'ont averti d'un possible risque de conflit d'intérêt. Donc il y a le méga tunnel que le gouvernement a jugé dans une ingérence un petit peu discutable dans une campagne, mais qui a le gouvernement lui-même jugé irréaliste, qui était pour projet donc de Jean-Michel Aulas de rendre les transports gratuits pour ceux qui gagneraient moins de 2 500 euros. Pour les Lyonnais qui gagneraient moins de 2 500 euros, ça ne figure plus dans le programme. Alors quand il a commencé à annoncer son programme, il nous a dit qu'il avait testé des idées à l'automne et que ce programme dévoilé vendredi dernier était, je cite, finalement le résultat de tout ce qu'il avait pu travailler entre le début de sa campagne et aujourd'hui. Donc il ne figure plus, toutes ces mesures ne figurent plus. Mais il dit quand même qu'ils y seront malgré tout dans son projet, que ça s'est maintenu dans son projet. Ouais. Maintenant, vous voyez un petit peu le climat autour de sa campagne, c'est beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'imprécisions finalement.
Alors, c'est. Je vous avoue, quand j'ai regardé évidemment quelques extraits de ce débat, on va revenir sur les autres candidats, mais je me suis quand même fait la réflexion en voyant effectivement la faiblesse de Jean-Michel Aulas et la force quand même des partis politiques qu'ils soutiennent, parce qu'il y a quand même LR, Horizon, Renaissance, il y a quand même l'intégralité du socle commun, enfin tous ceux qui veulent sortir du règne horrible de Grégory Doucet. Est-ce qu'on pourrait s'orienter, pardon, mais une stratégie à la marseillaise, entre guillemets, où vous avez une tête de liste qui sera remplacée à court ou moyen terme par un numéro 2, une numéro 3 de liste beaucoup plus, peut-être plus, je vais pas dire plus jeune parce que je, voilà, j'ai pas envie de 76 ans après tout, c'est pas non plus être un vieillard, quoi. En tout cas, ça empêche pas d'exercer ses fonctions politiques théoriquement. Un profil plus jeune, je sais pas. Alors, je vais donner un nom au hasard, je pense pas du tout à lui forcément, mais à Pierre Olivier, qui est le maire LR, qui est maire LR à Lyon. Est-ce qu'on pourrait s'orienter vers un scénario comme ça? Est-ce que ça pourrait être dans les esprits de certains de se dire, on envoie Jean-Michel Aulas en premier et on le débranche au bout d'un certain temps pour finalement redonner la ville à un des partis politiques existants, en fait.
Ben vous savez, là aussi,
c'est gratuit hein, comme théorie, hein, je n'ai rien pour l'affirmer.
C'est un bruit qui court vraiment très persistant à Lyon, c'est-à-dire qu'effectivement, il l'aurait, hein, j'utilise un vrai conditionnel et je me base que sur des rumeurs concordantes et persistantes, il l'aurait promis, effectivement, de laisser son siège, peut-être à mi-mandat, peut-être un peu plus tôt, à deux personnes en réalité, c'est aussi la force de Jean-Michel Aulas qui est capable de promettre plus, la même chose à plusieurs personnes lorsqu'il n'y a qu'un poste.
Ah bah vous voyez, la comparaison avec Marseille était extrêmement pertinente en fait, parce que c'est à ça qu'a joué Gaudin pendant des années tout en restant trois mandats de plus de ce qu'il avait promis à la base. Bah, c'est...
Mais vous êtes d'une pertinence rare,
Marc. Merci Nico, arrêtez. C'est gênant. Non, merci mais Nicolas.
Il y a cette question-là, et puis il y a cette autre question, c'est que tous les projets phares portés par Jean-Michel Aulas, à chaque fois qu'il les défend corps et âme personnellement, sont des sujets qui relèvent de la compétence de la métropole, si vous regardez bien. Et donc, pour l'instant, il y a une candidate officielle du camp Aulas pour la métropole, mais il y a aussi, du coup, ces bruits qui courent hein, de savoir c'est que finalement ce n'est pas la métropole qu'il vise, est-ce que il laisserait pas sa place de maire pour devenir président de la métropole. C'est difficile en fait de percer à jour Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui se dévoile peu. Effectivement, il a plus l'habitude des micros tendus avec des journalistes à la sortie de match parce que vous savez que c'est l'ancien président de l'Olympique.
Absolument.
Mais
ça Étienne Darjac, c'est le qui
compte. Ça, on l'a vu et effectivement, il y a une interrogation autour de ce qu'il veut vraiment, de ce qu'il entend faire et de ce qu'il motive. Est-ce que ce qu'il motiverait ne serait pas simplement d'avoir une ligne de métro qui irait en direction du salle et du stade et de la salle de spectacle pour lequel il est actionnaire?
Alors François Fillon a bien forcé le TGV à s'arrêter à Sablé-sur-Sarthe, hein, après tout.
C'était pas une archidée, par ailleurs.
Comme quoi, rien n'est impossible. Non, mais vous voyez, en fait, tout le monde se pose un peu ces questions, mais il bénéficie quand même aujourd'hui de cette aspiration et de cette dynamique d'être le seul en mesure, véritablement, de battre Grégory Doucet, le sortant, l'écologiste, qui, entre nous, vraiment, laisse un mandat très amer. Et ça, c'est ce dont on, un bilan très, très amer, et c'est ce dont on parle dans le numéro de Valeurs Actuelles cette semaine. Mais voilà, mais les jeux ne sont pas faits, parce qu'en duel, l'écart se resserre.
Après le débat
Avant, pour l'instant, on a fait le sondage après débat, mais en tout cas, avant déjà, l'écart se resserre, c'est-à-dire que Grégory Doucet est à 30% aujourd'hui au premier tour, lorsqu'il était en tête qu'avec 28% en 2020, finalement, Jean-Michel Aulas, selon les sondages, il est entre 45-47, et attention, parce qu'il est tombé quand même sur le chiffre porte-malheur à Lyon, vous savez, un sondage l'a donné à 42%.
41+1%, on dit.
41+1, oui.
Je vais me permettre.
Je vous laisse expliquer la raison de l'expression, parce que tous nos auditeurs ne sont pas des experts en matière footballistique.
Oh, c'est un peu plus que le football. Alors, c'est culturel à Lyon. Vous savez, Lyon et Saint-Etienne, il y a un antagonisme culturel depuis toujours.
Et on précise que le 42, c'est le numéro du département de la Loire, là où est Saint-Etienne. Non, mais je précise quand même de manière claire pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément toutes les spécificités.
Vous faites bien. Mais il se passe quand même quelque chose. C'est qu'au second tour, l'écart est quand même assez serré. On est, entre guillemets, sur du 55-45 à peu près. Et attention, parce qu'en fait, Alexandre Dupalet de l'UDR et du RN, qui est quand même...
Vous faites bien d'en parler, oui.
Qui est quand même sorti du lot lors de ce débat, et la candidate LFI, Anaïs Belloissa Chérifi, tous les deux sont à 9%, donc dans la marge d'erreur, et surtout à très peu de choses du second tour. Et là, si l'un des deux, même si on a vu pendant ce débat que Grégory Doucet et LFI, malgré le contexte lyonnais, malgré ce qui s'est passé, malgré la proximité assumée avec la jeune garde de la candidate LFI, se mettront ensemble et feront alliance, pour battre Jean-Michel Aulas. La présence d'Alexandre Dupallet à 9%, enfin au second tour, s'il parvenait à se qualifier, pourrait complètement rabattre les cartes. Surtout que je vous le dis, entre nous, Alexandre Dupallet serait prêt à apporter ses voix à Jean-Michel Aulas au troisième tour, c'est-à-dire au conseil municipal lorsqu'il faudra élire le maire. Si et seulement si il y a un accord de principe et si Éric Ciotti, Jordan Bardella l'autorise à le faire.
Mais donc si ça triangule, ça recule quoi, un petit peu quoi, si on devait.
Mais en plus d'être perspicace, il y a le sens de la formule, c'est magnifique. Merci.
Mais oh, arrêtez. Bon, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Alors, comme l'actualité politique est extrêmement morose et déprimante, on s'efforce d'avoir un ton léger, mais c'est pour masquer l'ampleur du vide. En tout cas, toutes les informations que vous entendez sont certifiées. On tient quand même à le préciser. Alors, on a eu un sondage, Nicolas Boutin, sur Menton. Alors, plusieurs informations, plein d'informations dans ce sondage.
Ah, enfin une bonne nouvelle.
Alors déjà, ce sondage donc est très clair. Alexandra Masson, la candidate du RN et de l'UDR en tête avec 31%. Vient derrière un candidat d'hiver droite, Monsieur Père, avec 17%. Lancard Castiel, Union de la Gauche, 17%.
Et quand arrive Louis Sarkozy, alors?
Louis Sarkozy, 16%. un autre d'hiver droite, Monsieur ou Madame Champion, parce que j'ai pas le prénom, à 15%. Et la candidate Reconquête à 4%. Alors bon, déjà, première information, la droite fait 83% à Menton.
Quelle belle ville.
C'est pas nouveau, mais
ouais,
bon,
ouais, mais voilà,
ça fait toujours plaisir.
En élargissant de Horizon jusqu'à Reconquête, bien évidemment, mais 83% à Menton. Et voilà, donc ça, c'est la première nouvelle, déjà. La deuxième, c'est la candidate du RN et de l'UDR qui est extrêmement haute, mais ça non plus, c'était pas vraiment une surprise. Non, la vraie surprise, et vous l'avez un petit peu dit, Nicolas, c'est Louis Sarkozy. Alors, dans un mouchoir de poche avec les deux au-dessus, mais en quatrième position. Visiblement, ça n'a l'implantation de Louis Sarkozy à Menton a été plus compliquée que prévu, Nicolas.
Mais effectivement, on a l'impression que le nom sur lequel il peut surfer, sur la médiatisation dont il bénéficie à la radio notamment, ne permet pas à Louis Sarkozy de s'imposer et d'enfoncer le clou. Il est aujourd'hui donc derrière un candidat donc du RN qui a 31% et qui est largement en tête et puis qui est donné vainqueur dans tous les cas de figure au second tour entre 51 54% et même 45% en triangulaire. C'est la députée RN du coin depuis 2022. Elle a réussi finalement à faire son trou dans sa circonscription et particulièrement à Menton. Le maire sortant, hein, qui malheureusement baigne dans des histoires pas très claires, judiciaires, ne se
représente pas. Oui, des histoires de promoteurs immobiliers, enfin une ville de Provence, quoi.
Attention à ce que vous dites dans la Provence.
Je plaisante. C'est de l'humour, chers auditeurs, ce n'est évidemment pas une information.
Mais en tout cas, voilà, trois candidats, pardon. Classé d'hiver droite qui essaye de se battre pour la succession, dont Louis Sarkozy. Et il semblerait que Louis Sarkozy ne soit que le 2 des 3 mieux placés, avec aussi le candidat de la gauche à 17% qui arrive en 3e position. Donc ça va être assez compliqué pour Louis Sarkozy de s'imposer à Menton, une arrivée fraîche hein, dans la ville, vous le disiez, dans une ville quand même avec une assez forte identité. Finalement, et donc.
Oui, mais une ville où le nom Sarkozy devrait fonctionner, quoi, parce que c'est quand même une ville qui, lorsque Nicolas Sarkozy vient signer un livre ou que il y a toujours une foule incroyable pour l'accueillir, c'est une ville où traditionnellement le RPR, enfin l'UMP et LR ont toujours fait des scores incroyables. C'est vrai que le nom Sarkozy, dans l'absolu, le calcul n'était pas crétin, le nom Sarkozy aurait pu s'imposer dans une ville comme Menton.
Non, mais effectivement, tout à fait. Mais il semble aussi que Louis Sarkozy tient des propos assez clivants, même pour au sein de son propre électorat.
Vendre des mangues dans la ville du droit. Citron, c'était maladroit.
Déjà. Non, mais il y a eu plusieurs maladresses, effectivement. Il y a eu des sorties, des tribunes qui ont été qui vont à l'encontre un petit peu du côté de la droite. Et puis je pense qu'il a fait aussi une erreur en y allant tout de suite, en disant qu'il voulait empêcher le RN d'être à la mairie. Peut-être qu'il a prononcé, on va dire, cette formule un peu trop tôt et que peut-être s'est-il trompé d'amis. Et puis surtout, il n'a pas réussi à unir autour de lui tout Sarkozy qu'il est, n'a pas réussi à unir autour de lui Les deux autres candidats de la droite, avec qui il aurait pu finalement jouer à jeu égal, voire même devancer Alexandra Masson.
Merci beaucoup Nicolas Boutin. Je vois que le temps file et que cela fait et que votre brise s'arrête. Allez, il y avait encore plein de villes à voir. Simplement, Marseille, on en a déjà parlé il y a pas longtemps. Juste nous faire peut-être un tout petit point en une minute sur Bordeaux. Est-ce que le maire écolo Pierre Urmic va réussir à sauver son siège très rapidement?
Écoutez, il semblerait qu'il est en danger. Le dernier sondage qui est sorti le donne un second tour en quadrangulaire avec 37% pour le centre, 35% pour Urmic. Raymond de LFI à 16% et le RN Rechagneux à 12%, sachant que le RN au premier tour n'est donné qu'à 7%, donc pas qualifié. Et donc vous imaginez, si on est en triangulaire, et bien évidemment le centre s'en sortirait plus renforcé. Donc oui, Bordeaux peut tomber, chers auditeurs. Ça fait partie des informations qu'on peut vous donner aujourd'hui selon un sondage IFOP.
Eh bien écoutez, en tout cas, si certaines villes écologistes semblent trop solides, je pense notamment, je crois qu'à Strasbourg, pareil, la maire écolo est en grand danger devant la candidature de la socialiste Catherine Trottmann. qui aurait pu penser que les Strasbourgeois regretteraient Catherine Trottmann? En tout
25
cas,
ans après, c'est quand même une performance. Après,
c'est une performance en termes de vie politique. Elle a quand même été brièvement ministre de la Culture sous François Mitterrand.
Sous Lionel Jospin, d'ailleurs, plutôt. En cousinage avec Jack Lang, d'ailleurs.
Vous avez raison.
Poitiers, on s'en débarrassera jamais.
Poitiers, ça pareil. Oui, mais si c'est pour dégager Jeanne Barseillan, honnêtement, c'est peut-être jouable. Poitiers, ça paraît compliqué. Strasbourg, on a parlé évidemment de Catherine Trottmann. Il y a une autre information, une liste de gauche se retire, Nicolas Boutin, une liste d'extrême gauche même.
Sam Yolda, son nom peut vous dire peut-être quelque chose, et surtout dans l'actualité dans l'ambiance actuellement, c'était l'un des porte-paroles de la Jeune Garde et qui s'était lancé donc dans la campagne des municipales à Strasbourg. Et on a une superbe enquête réalisée par Marie-Liesse Chevalier, notre journaliste sur le site de Valeurs Actuelles.
Absolument.
Samuel Das, il s'est retiré par peur des pressions et des menaces de l'extrême droite, a priori. Comme je le disais, donc, l'ancien porte-parole du mouvement Antifa dissous, Jeanne Garde, impliqué dans la mort de le mouvement, hein, bien sûr, impliqué dans la mort de Quentin Derenck, et qui donc jette l'éponge. Il s'était présenté non pas avec la France Insoumise cette fois-ci, mais en indépendant. Donc reste à savoir maintenant quel rôle va jouer dans le reste de la campagne et vers qui va-t-il rabattre ses électeurs.
La Jeune Garde dissoute, mais sur qui pèsent des soupçons justement de reconstitution de Ligue dissoute. Merci beaucoup Nicolas Boutin d'avoir été avec nous pour ce tour des élections municipales. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous allons quitter la France et partir vers le Mexique avec Jean-Michel Vert, notre expert en grand banditisme. Mais en attendant, petit message de votre radio.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.